Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. C'est la première semaine des vacances dites de la Toussaint, ce qui implique, comme souvent, une petite accalmie dans l'agenda musical classique jusqu'au début du mois de novembre. Mais qu'à cela ne tienne, d'une part, il y a tout de même quelques événements à vous annoncer, et d'autre part, plusieurs ont eu lieu récemment. Nous allons donc y revenir avec Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. À ses côtés, je suis heureux de retrouver son alter ego, Robert Pénavert, également cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Culture 31 et Actu Toulouse, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Tous les trois, nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois à Mélomanie le jeune compositeur Corentin Appareilly, avec lequel nous allons évoquer la pièce qu'il a créée pour l'Orchestre de Chambre de Toulouse, dont les prochains concerts ont lieu les 30 et 31 octobre à l'escale de Tournefeuille. Ce sera en seconde partie d'émission. Pour l'instant, place à l'actualité musicale récente, retour arrière.
Mélomanie, retour arrière.
Le grand événement de la rentrée à l'Opéra National du Capitole était, comme vous le savez, les 9 représentations du Nabucco de Verdi, mais il y a eu aussi 2 autres productions en suivant, 2 opéras baroques, l'un donné en version concert et l'autre dans une version mise en espace. Le premier, c'était Didon et Énée, l'opéra d'Henry Purcell, donné le 7 octobre, avec Sonia Yoncheva dans le rôle de Didon et avec l'orchestre et le chœur de l'Opéra Royal de Versailles. Robert, vous avez assisté à cette unique représentation et vous allez pouvoir nous faire part de vos impressions. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette production ?
Alors, tout d'abord, dire qu'à partir de là, le Capitole rentrait dans un épisode baroque, puisqu'après, nous allons parler de l'entrée au répertoire de l'Alcina de Francesca Caccini. Mais auparavant, donc, nous retrouvions cette Didon aînée, puisque, en fait, ce n'est pas la première fois que cet opéra de Purcell était donné au Théâtre du Capitole, puisque en 1999, il y avait eu une production scénique de Didon aînée qui avait été donnée dans le cadre d'une tournée de l'Académie européenne de musique. Et la mise en scène était de Marcel Bouzonnet. C'était l'entrée au répertoire du Théâtre du Capitole. Alors, revenons à ce que nous venons d'entendre. Alors, les académies se suivent, donc, puisqu'il y a eu donc, l'Académie européenne de musique, et cette fois-ci, ce sont les étudiants de l'Académie du Théâtre Royal de Versailles, qui couvraient plus de la moitié de la distribution. Mais il y avait évidemment une diva dans le lot, puisqu'on sait parfaitement que dans les jours qui ont suivi, toute cette équipe-là, tous les chanteurs, les musiciens, les choristes et le chef ont donné en version scénique cette Didon et Néné au Théâtre Royal de Versailles. Voilà. Mais non, nous l'avons eu, non pas en répétition, oui, c'est pas ce que je veux dire, mais nous l'avons eu en version concert. Et il y avait évidemment, comme je disais, une grande diva au milieu de la distribution, la soprano Sonia Yoncheva, puisqu'après les autres, bon, honnêtement, il faut tenir compte quand même de leur statut d'étudiant. Mais bon, c'était très bien, tout le monde était dans le style. Mais en même temps, je pense que dans la tournée, c'était leur première apparition à public. Alors, il faut bien comprendre que tous ces jeunes étaient certainement très stressés, beaucoup plus que Sonia Yoncheva, très clairement. Donc, on va surtout parler, si vous voulez bien, de Sonia Yoncheva. Et pour tout vous dire, moi, je n'ai pas été emballé. Sonia Yoncheva, vous savez, cet été, je l'ai entendue au festival Peralada dans un programme qui lui est totalement étranger, un programme de Sarsuela, et qu'elle a chanté, évidemment, avec tout le talent de bel cantiste que nous lui connaissons. J'ai eu le bonheur d'entendre Yoncheva à Londres dans Norma. Elle est magnifique. Mais il faut bien reconnaître que ce n'est pas tout à fait le style des Sarsuela. Alors, qu'est-ce qu'elle fait de cette Didon ? Ben, en fait, un peu la même chose, c'est-à-dire que ce que nous avons entendu, et nous sommes plusieurs à nous être fait cette réflexion, dans cet opéra, il y a quelque chose de très important, c'est la déploration finale. « When I am laid in earth », c'est vrai que c'est génial, totalement génial. Et on a un peu l'impression quand même qu'elle s'est réservée pour ce moment-là. Nonobstant, mis à part quelques éclats lorsqu'elle congédie Énée, tout de même, puisqu'Énée lui dit « Voilà, moi, j'ai autre chose à faire que roucouler ici. Il faut que j'aille fonder Rome, tout de même. » Et d'autant que c'est Jupiter qui me le rappelle. Et là, il y a une séquence où alors on retrouve la Ioncheva actuelle, c'est-à-dire celle qui s'est affrontée déjà au répertoire romantique. Et là, elle a des éclats fulgurants. C'est un très grand lyrique, Sonia Ioncheva. Alors, est-ce que c'est exactement la voix qu'il faut pour Didon ? Je sais bien que Kirsten Flachter l'a chantée, mais avec quelle émotion également ? Ce n'était pas tout à fait le cas de Sonia Ioncheva. Voilà. Et en plus, j'ai trouvé que le timbre était un peu, allez, crépusculaire.
Oula.
Point. Alors, elle tentait de faire de belles choses, comme dans les Sarcelles, mais on ne chante pas. Dis donc, comme on chante Norma, c'est pas vrai, c'est pas possible. Après, il y a de belles choses, en particulier un contre-ténor qui s'appelle Arnaud Gluck et qui faisait l'esprit déguisé en Mercure. Après, tous les autres étaient bien. J'ai retenu surtout, vraiment, l'orchestre et le chœur du Théâtre Royal de Versailles sous la direction de Stéphane Plovniak. Ça, c'était magnifique. Rien que pour ça, je pense qu'il fallait y aller.
Donc, ça valait quand même le coup d'aller écouter ça. Eh bien, nous, on va pouvoir écouter Sonia Ioncheva dans un des airs célèbres de Didon, lorsque l'héroïne de l'opéra Don Rippersel se donne la mort à la fin de l'acte 3 en chantant, vous y avez fait allusion, ce lamento déchirant, While I am laid in earth. While I'm laid in earth, air de l'acte 3 de Didon et Aeneas, chanté par Sonia Ioncheva. Et puis il y avait donc un autre opéra baroque au Capitole quelques jours plus tard, Alcina de Francesca Caccini, donné le 13 octobre par l'ensemble Gemelli d'Emiliano González Toro, dans une mise en espace conçue par Mathilde Etienne, une œuvre marquante dans l'histoire de l'opéra, puisqu'il s'agit du premier à avoir été composé par une femme, Robert.
Alors, c'est ce que l'histoire, pour l'instant, retient, puisque on sait bien que les musicologues, historiographes de la musique creusent, et puis, bon, pendant très longtemps, tu te souviens, Serge, on a plaidé Urbi et Torbi que le premier opéra, c'était
l'Orfeo
de Monteverdi.
Orfeo,
maintenant, on sait que c'est plus vrai, qu'il y en a eu un quelques années auparavant, l'opéra de Jacopo Peri, voilà. Et c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que l'affaire de Francesca Caccini s'est déroulée, celle qu'on appelait la Cecchina, parce que c'était une diva. Elle était avant tout chanteuse.
Ah, c'était une star en son temps.
Ah, c'était une star. C'était la musicienne la mieux payée d'Europe. Elle est la fille de Giulio Caccini, qui était également...
Célèbre aussi.
Lui était pour le coup, il est toujours célèbre. Hein.
Oui, il restait voilà. célèbre.
Il restait célèbre, oui. En fait, l'opéra a été créé en 1625. Bon, à cette époque-là, les cours princières royales, ducal, le comtal, en fait, tout ce que vous voulez, en particulier en Italie, commandaient des œuvres pour honorer des invités. On offrait à l'invité, à l'occurrence le prince Sigismond de Pologne, qui était en visite à la cour de Florence, on lui a offert un opéra. Et c'est Francesca Caccini qui a été bénéficiaire de cette commande. Et elle a fait un opéra, mais vraiment un opéra, avec un prologue, avec trois actes, enfin, avec des chœurs. Comme à cette époque-là, évidemment, il y avait une mise en scène absolument somptueuse, avec une machinerie comme on n'a même pas idée aujourd'hui. Et ça se terminait par un ballet équestre. Bon, alors, un ballet équestre, on ne l'a pas eu au Capitole. Et cet opéra, en définitive, est tombé dans l'oubli complet, puis a refait surface il y a quelques années. Il a même été enregistré, et puis s'est donné maintenant assez. Alors, régulièrement, n'allons pas jusque-là quand même. Hein. Mais alors, cela dit, c'est quand même très, très intéressant, parce qu'on sent bien que derrière cet opéra, la compositrice nous annonce pas mal de choses. Alors évidemment, c'est fatal, elle a écouté Monteverdi, elle a écouté Peri, elle a écouté tous ces gens-là, qui étaient ses contemporains.
Oui, oui.
Donc fatalement, elle les a écoutés. Et on le sent bien dans la musique. Mais en dehors de ça, il y a quand même des personnages très marqués dramatiquement qui annoncent peut-être une autre époque. Alors pas le romantisme, mais peut-être les débuts du classique.
Pourtant, elle est morte en 1641, bien avant que l'avènement du classicisme.
Oui, mais donc, comme quoi, oui. Mais peut-être aussi que les précurseurs du classicisme ont écouté Caccini et Francesca. Donc cette année, pour jouer cette œuvre, on a Gemelli, et c'est un ensemble que nous avons déjà reçu à Toulouse.
Pour Monteverdi.
Pour Monteverdi, pour le retour d'Ulysse.
Magnifique.
Voilà, et qui était également donné en version semi-scénique. Quand on dit semi-scénique, il faut préciser que quand même, il y a deux ou trois gestes, il y a pas de costume.
Oui. Mais là, ils appellent ça mise en espace. Alors maintenant, il y a tout un tas de mots, scénographie, mise en espace. Bon.
Alors, l'opéra, le titre original, c'est « La Liberazione di Ruggiero dell'Isola d'Alcina ». Cet extrait des livres 6 à 8 du Roland Furieux de l'Arioste. Et inutile de vous dire que de nombreux compositeurs se sont jetés sur l'histoire de cette magicienne qui est évidemment usée, abusée, utilisée, je ne sais pas le terme qu'il faut employer, de ses amants, et pour les retenir dans son île enchantée, les transformer en animaux. Et en animaux, c'est le cas de la version de Handel. L'Alcina de Handel et ses malheureux hommes sont transformés en animaux. Ici, ils sont transformés en fleurs.
Ah, on voit que c'est une femme qui a fait l'opéra.
Voilà, très clairement, vous avez raison, Eric. C'est un opéra écrit par une femme pour des femmes. Alors donc, l'ensemble Gemelli, je crois qu'il n'a pas besoin de beaucoup de commentaires, c'est un ensemble qui est spécialisé finalement dans l'interprétation de la musique vocale du XVIIIe siècle. 17e siècle, voilà. Et il n'est pas dirigé, en fait, parce que Emiliano González Toro, qui est également ténor, qui chante, et c'est d'ailleurs lui qui fait Ruggiero, mais il ne les dirige pas. Il était au fond de la scène, sur une petite chaise, et tout le monde se débrouillait sans lui. Bon, évidemment, il se levait quand il avait à intervenir, mais ça s'arrêtait là. Et c'est une très belle voix.
Oui.
Et alors, heureusement qu'on avait un ténor de cette qualité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le personnage de Ruggiero, le dernier en date des amants d'Alcina, en fait, a un rôle qui ne met pas l'interprète en valeur. Ce n'est pas un personnage dramatiquement très intéressant et même vocalement. Mais heureusement, avec González Toro, on a quand même quelqu'un qui a su, au travers les couleurs qu'il a mis dans sa voix, la vibration dans son émission, il a su nous émouvoir, surtout au moment où il prend... Il explique à Alcina que ben voilà, elle est obligée de la quitter. Alors après, bon, les dames, bien évidemment. Alcina, c'est
Alix
Le Saut, que je dis d'emblée, de manière très générique, tout le monde est vraiment très respectueux du style de l'œuvre. La caractérisation des affects, tout, ça c'est parfait. Ensuite, on peut aborder simplement l'aspect purement vocal. Alors, c'est vrai que Alix Le Saut a un timbre un peu ouaté, qui fait que c'est... Parfois, lorsqu'elle descend dans le bas médium, on a tendance à devoir prêter l'oreille, autrement on l'entend pas trop. Et c'est un peu dommage. Elle se déchaîne, elle aussi, finalement, qu'une fois, lorsqu'elle met Ruggiero à la porte, hein, littéralement. Parce qu'en définitive, Ruggiero, encore une fois, c'est une caractéristique qui n'est pas très intéressante pour le personnage. Après lui avoir dit « je m'en vais », elle lui fait la scène du 3, et puis il lui dit « non, finalement, je reste ». Bon, et heureusement, Alcina a plus de caractère que Ruggiero, et elle lui dit « non, maintenant, t'as dit que tu partais, tu t'en vas, et fiche-moi la paix ». Et ensuite, il y a un autre grand rôle féminin, c'est le rôle de Mélissa, c'est une autre magicienne en définitive, et c'est elle qui est venue un peu régler toutes ses affaires, puisqu'en fait, il faut savoir que Ruggiero doit partir délivrer le tombeau du Christ, quand même une mission, et puis surtout, il y a une fiancée qui s'appelle Bradamante. Donc, elle lui remet un peu les pendules à l'heure, voilà. Et alors, Mélissa, et très bien, c'est une soprano qui s'appelle Laurie Garcia. Elle, par contre, elle a un timbre très net, très lumineux, très clair en définitive, bien projeté, très homogène sur toute la tessiture. Et vraiment, elle fait une Mélissa de très très grande qualité. Voilà. En fait, tout le monde est bien. Alors, je voudrais également citer la seule clé de fa, finalement, de tout l'opéra. C'est un dénommé Nicolas Preussmann. On l'a entendu dans le Retour d'Ulysse. Et quand on l'a entendu une fois, on ne peut pas l'oublier, même dans un tout petit rôle.
Donc un habitué des productions de Gemelli.
Voilà, parce que c'est vraiment une voix d'abord d'une rondeur magnifique, d'une projection. Cette projection, la puissance de projection, n'empêche pas du tout des nuances, le phrasé, le style, les couleurs jusque dans le haut du registre, donc, caractéristiques des voix bien placées. Et moi, à mon avis, cet homme qui est jeune également, ça m'étonnerait qu'on ne l'aura pas glissé petit à petit vers notre répertoire.
Très bien, et bien voilà pour la page opéra de cette première partie d'émission. Il va y en avoir une autre tout à l'heure lorsque nous allons évoquer les concerts de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retour maintenant sur le deuxième concert de la saison des grands interprètes où la voix était aussi à l'honneur. Il a eu lieu mardi dernier à la Halle au Grain où se produisait le contre-ténor Philippe Jarouski accompagné par l'ensemble L'Arpeggiata dirigé par sa fondatrice, la théorbiste Christina Plouard. Ils ont donné un programme sous-titré « Passacaille de la folie » où l'on trouvait de nombreux compositeurs du XVIIe siècle, surtout français et italiens, Serge.
Mais oui, absolument. Avec de nombreux compositeurs français dont j'avoue que je découvrais le nom et l'œuvre. Alors, je ne connaissais pas un certain Antoine Boessé. Bon, Gabriel Bataille, oui. Henri de Bailly ou Pierre Guédron. Ce sont des noms que je découvrais. Et alors, c'est intéressant parce qu'il s'agissait donc d'un concert d'air de cour. C'était la pratique de l'air de cour que Christina Plouard et Philippe Jarouski voulaient démontrer au cours de ce concert. Alors, il y a une vingtaine de pièces qui ont été jouées. Alors, on pouvait craindre un morcellement de l'ensemble de ces... Eh bien, pas du tout. Alors, ça, c'est vraiment à imputer à la science musicale de Christina Plouard en particulier. La succession des airs et des intermèdes instrumentaux, il y en avait quelques-uns, elle s'effectue dans la continuité. On a l'impression qu'on écoute une œuvre unique, du début à la fin du concert. Donc c'était vraiment très impressionnant, puisque les styles étaient très proches, évidemment. La première partie était surtout française, la deuxième partie italienne, avec du Monteverdi notamment. C'était lui le plus célèbre des compositeurs au programme. Alors on a retrouvé tel qu'en lui-même Philippe Jarouski, qui nous a donné un véritable show, il faut le dire. Hein. Là, il s'impliquait complètement. D'une part, vocalement, il était en grande forme, donc avec une belle vocalisation, une agilité vocale et surtout une belle expression des affects. Là, une fois de plus, il savait mêler à la fois la douceur, la folie, le désespoir, l'humour, donc dans la succession de ses airs. Magnifique. Et en particulier, il y avait des duos qui apparaissaient, en particulier un duo du chanteur avec un musicien qui jouait du cornet à bouquin, qui est plutôt rare, hein, et donc ça faisait vraiment une espèce de duo de voix, hein, le cornet à bouquin ressemblait à une voix humaine, exactement, et donc ça a été un très beau moment, avec notamment, il y avait ainsi un air d'Henri de Bailly qui s'appelle « Yo soy la locura », donc « Je suis la folie ». Et là, bah, il s'est muni d'un éventail, et le chanteur, et puis il s'est vanté pendant qu'il débitait son air. Et puis il y a eu la partie italienne, avec donc des œuvres de Monteverdi, mais pas que, puisqu'il y avait également certains Cazzati et Luigi Rossi, donc des grands compositeurs italiens de la Renaissance. Et là aussi, il s'impliquait au point que l'émotion suprême, elle émanait de l'air Oblivion Soave, qui est extrait du couronnement de Poppée de Monteverdi. Et ça, il a chanté ça avec une sensibilité magnifique. Et avec de nouveau, un peu plus tard, un air très réjouissant que je voulais mentionner de Luigi Rossi, qui provoque un peu une dispute comique entre la voix et le cornet à bouquin. Et le cornet à bouquin, comme pris de rage à un moment, alors ça date pas de l'époque, et bien il s'égare à déclamer la marche turque d'un certain Mozart, par exemple, au milieu.
Oui, bon, c'est égaré, effectivement.
C'était assez égaré. Et puis, il y a eu de belles pièces instrumentales, hein, et le programme officiel, donc, s'est achevé sur un véritable tube de musique ancienne, le fameux Music for a While d'Henry Purcell. Donc ça,
c'était l'intrus, il y avait un anglais dans le...
Oui, il y avait quand même un anglais.
Au milieu des Français et des Italiens.
Français, Italien et Anglais. Music for a While, alors là, on avait l'impression que la pièce était revisitée par les interprètes. Alors il y a eu un accueil enthousiaste du public qui a amené la prolongation, en quelque sorte, alors, avec deux pièces complètement décalées, puisque la première, c'était de la célèbre Dalida, Besame Mucho, mais jouée...
Compositrice italienne de la Renaissance.
De la Renaissance, tout à fait, oui. Et ça s'est terminé par l'air Déshabillez-moi de Juliette Gréco. Alors,
autre compositrice de la Renaissance,
très connue. Compositrice. Oui. Mais tout ça passait à la moulinette du chant et du jeu instrumental baroque. Ça passait comme s'il s'agissait d'œuvres de la même époque. C'était vraiment incroyable. Et d'ailleurs, pour la dernière pièce, le Déshabillez-moi, eh bien, le contre-ténor a simulé un début de striptease. Il a commencé par enlever sa veste, enlever sa cravate, a jeté la veste dans le public.
Mais il était temps que ça se termine. Hein.
Oui. Bon, ça a été, comme il l'a dit lui-même, c'était un concert baroque dans tous les sens du terme, ouais, en quelque sorte.
Ouais. Et pour écouter Philippe Jarouski accompagné par l'arpeggiata, il y avait beaucoup de possibilités qui s'offraient à moi. Vous avez pu le voir
oui.
La liste qu'a égrené Serge Chosy. J'ai choisi de vous faire découvrir une pièce composée par le très méconnu Pierre Guédron, au plaisir aux délices bergères.
Ces merveilles, fermer la bouche et non pas les oreilles.
Au plaisir, Odélice Bergère, air composé par Pierre Guédron, chanté par Philippe Jarouski, accompagné par les musiciens de l'Arpeggiata. Le prochain concert du cycle des grands interprètes est programmé le mardi 5 novembre à 20h à la Halle aux Grains. On va y retrouver William Christie et son ensemble Les Arts Florissants pour accompagner devinez qui, Mademoiselle Sonia Yoncheva, qui décidément se plaît beaucoup à Toulouse. On reste à la Halle aux Grains pour le concert donné samedi dernier par l'Orchestre National du Capitole. C'était sous la direction du chef allemand Frank Behrmann. Il nous a permis de réentendre avec grand plaisir un musicien qu'on aime beaucoup à Toulouse, et pas seulement parce qu'il est toulousain, le pianiste Adam Laloum. Nous étions tous les deux présents cette soirée, Serge, et on a bien fait d'y être parce que ça a été vraiment un très beau moment.
Ah, magnifique moment, avec deux œuvres très différentes évidemment, mais toutes les deux d'origine autrichienne, ce qui avait motivé une disposition instrumentale dans l'orchestre complètement différente, avec les premiers violons à gauche, les deuxièmes violons à droite, les contrebasses à gauche, enfin tout était modifié, comme ça l'est dans les orchestres de l'Est de l'Europe ou de l'Autriche. Donc, on avait droit à cette nouvelle disposition. D'une manière générale, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce concert, ça on le doit au chef, hein, c'est l'équilibre des sonorités entre cordes et vents. C'était vraiment parfait chaque fois. Les deux systèmes musicaux se mêlaient, mais l'un ne dominait pas l'autre. Donc, c'était vraiment un très bel équilibre. Alors, la soirée a commencé donc par l'exécution exemplaire, on peut le dire, hein, par Adam Laloum comme soliste du concerto pour piano et orchestre numéro 24, le Köchel 491 de Mozart, qui est probablement l'un des concertos les plus dramatiques, d'ailleurs l'un des rares à bénéficier d'une tonalité mineure. C'est un do mineur, et on comprend pourquoi. Et là, sans exagérer, aussi bien l'orchestre que le piano, ils ont souligné cet aspect sombre et dramatique, en particulier du premier mouvement, avec quelques atmosphères angoissantes, tragiques, et puis la complémentarité entre l'orchestre et le piano. On avait l'impression qu'on assistait à des échanges entre le soliste et le tutti, et qui prenaient des allures d'air d'opéra. On trouve beaucoup dans les œuvres de Mozart, les œuvres instrumentales, on retrouve souvent, évidemment, les œuvres vocales du compositeur. Le sens des nuances d'Adam Laloum, les phrasés touchants, magnifique. Hein. Alors, il faut dire que dans le premier mouvement, il avait choisi une cadence particulièrement passionnée, qui est élaboré par le grand pianiste Paul Badouraskoda. Donc, il avait choisi cette cadence-là, et ça allait parfaitement. On a eu droit, dans le deuxième mouvement, à l'action des pupitres de bois, qui sont magnifiques. Il faut dire qu'on a de beaux musiciens parmi les pupitres de la Petite Harmonie dans notre orchestre. Et puis un final, en conclusion, qui dissimule un peu les angoisses sur une joie un peu extérieure, évidemment. Et puis ce grand moment, donc, qui a été largement acclamé, a été suivi d'un bis, mais qui était vraiment exigé par le public. Hein. Un bis magnifique, puisqu'il a joué avec une poésie incroyable, le moment musical numéro 2 de Franz Schubert.
C'est pas un petit bis, hein, parce que c'est un bis de 7 minutes.
Ah oui, c'est un bis assez long, mais alors magnifique, comme vraiment peu de
extrait du CD
de
Schubert qu'il a enregistré l'année dernière, chez Harmonia Mundi, magnifique.
Magnifique. Et puis en deuxième partie, alors le contraste était assez fort, puisqu'il s'agissait de la symphonie numéro 4, intitulée Romantique, d'Anton Bruckner. Alors on change de monde, là, effectivement. Et alors là, ça a été dirigé par Frank Behrmann avec une ardeur et un équilibre parfait de nouveau entre les différents pupitres. Vraiment, on peut admirer le fait que les cuivres, malgré l'éclat des outils de cuivre, c'est spectaculaire, hein, eh bien, jamais ça n'écrase les cordes. Et donc, en plus, les tempi qu'il a choisis, le débit instrumental n'est jamais pesant et l'orchestre apparaît toujours avec une transparence que l'on n'attend pas forcément dans ce type d'œuvre, hein, qui souvent apparaît un peu comme massive. Ben là, pas du tout, c'était transparent. Alors, je voudrais quand même insister sur un des musiciens qui s'appelle Thibaut Hockey, le premier corniste.
Ah oui.
Et l'ouverture, l'allegro initial s'ouvre sur un solo de corps périlleux au possible. Ouais. Périlleux, on peut y faire les pires choses. Et il a joué ça avec une finesse, une musicalité, une beauté. Et puis il renouvelle pendant toute l'œuvre. Hein. Bravo à lui. Et donc avec, notamment dans l'Andante, l'utilisation des silences qu'il a introduit, Frank Behrmann, vraiment avec une ponctuation des pizzicati aussi, des cordes. Et enfin, bon, la dynamique du final. Alors là, c'est spectaculaire, puisque ça va du plus extrême pianissimo au fortissimo le plus ravageur. Donc c'était une explosion chaque fois après ces grands silences ou ces grands pianissimi. Donc l'accueil du public, à son tour, a explosé. Donc en quelque sorte, ça a été vraiment un enthousiasme général de toute l'assistance.
Une œuvre qui dure près d'1h10. Hein.
Ah oui. Mais vraiment qui est passée parfaitement.
Oui, tout à fait. Donc symphonie numéro 4, dite romantique, et c'est vraiment Bruckner qui l'a appelée romantique.
Ah oui, exactement.
Et souvent, ce sont des musicologues. Non, là, c'est vraiment lui.
Ou les éditeurs, quelquefois.
Et j'ai découvert qu'en fait, il avait annoté tous les mouvements, les trois premiers en tout cas.
Absolument.
Il leur a donné un sous-titre, c'est très étrange.
Des notations en allemand, oui.
Ville médiévale, chevalier se lançant au dehors sur de fiers chevaux pour le premier mouvement, amour repoussé pour le second et danse pour le repas de chasse pour le troisième. Le dernier mouvement, pas de sous-titre.
Oui, non.
Alors là, on ne va pas réécouter du Bruckner, mais on va réécouter Adam Laloum, qui a donné ce bis magnifique, ce moment musical numéro 2 de son cher Franz Schubert, pièce donc enregistrée sur le CD qu'il a fait paraître en 2023 sous le label Harmonia Mundi. On l'écoute tout de suite. Le moment musical numéro 2 de Franz Schubert, un extrait du CD d'Adam Laloum, paru en 2023 sous le label Harmonia Mundi. Pour terminer cette première partie d'émission, une courte virgule musicale avant de poursuivre nos échanges avec Serge Chosy, Robert Pénavert et notre invité d'honneur Corentin Appareilly. Assez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie, donc largement consacré au concert que donne l'Orchestre de Chambre de Toulouse les mercredis 30 et jeudi 31 octobre à 20h30 à l'escale de Tournefeuille. Le programme est sous-titré « Viva la mort » et l'apostrophe à mort, hein. Vive l'amour. Et je dois préciser qu'il a déjà été donné les 14 et 15 octobre à Toulouse, à l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines. Il y a dans ce programme une œuvre de Corentin Appareilly, créée pour l'occasion, on va en parler avec lui dans quelques minutes, mais la majeure partie de ses concerts est dédiée à des airs d'opéra. Il y a des mélodies chantées par la mezzo-soprano Catalina Skinner et le baryton Pierre-Yves Binard, des airs qu'ils chantent séparément ou en duo. Quels sont ces airs, Serge, sachant que le thème général, on l'a compris, c'est l'amour avec un grand A.
Alors, il y a une première partie de Mozart, avec d'abord l'ouverture des Noces de Figaro, puis des extraits de Don Giovanni, Madamina, il catalogue questo, l'air bien connu de Leporello, puis un air de Zerlin, et puis la sérénade de Don Giovanni, et puis le duo Don Giovanni-Zerlin. Donc, il y a pas mal d'air extraits de Don Giovanni. Ensuite, il y aura... un concerto grosso de Handel avec Ombra mai fu, donc extrait de l'opéra Xerxes, air célèbre hein, donc. Hein. Et puis on passe de Handel à Bizet avec la suite de Carmen, la suite numéro 1 dans la version pour cordes. Et puis ensuite on va vers Berlioz avec la Villanelle, extrait des Nuits d'été. Puis du Gabriel Fauré, Après un rêve, magnifique mélodie de Gabriel Fauré. On continue de célébrer le centenaire oui. de sa disparition, évidemment. Et puis c'est là que nous entendrons la création de Corentin Paris, donc créé pour l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Et puis, pour terminer, un duo célébrissime de Rossini, Dunque et Io Son, duo Rosine-Figaro, donc extrait du Barbier de Séville.
Alors, on va écouter une suite d'extraits de ce programme Viva la mort, ce qui va nous permettre d'entendre les voix de Catalina Skinner et Pierre-Yves Binard, accompagnés par les musiciens de l'Orchestre de Chambre de Toulouse.
Andrai far parola amoroso, notte e giorno d'intorno girando, nelle belle turmate il riposo, Narcisa tua dolcino d'amor. Nelle belle turmate il riposo, Narcisa tua dolcino d'amor. Saison nouvelle, quand auront disparu les froids, tous les deux nous irons, ma belle, pour cueillir le muguet au bois. Sous nos pieds égrenant les perles que l'on voit tout matin trembler, nous irons écouter les merles. Nous irons écouter les merles siffler.
Et toi, imaginons, tu réponds à tes longs frissons. Sogne un âme idéal, chante à mon pio. Chante à mon pio.
Extrait en fondu enchaîné du programme Viva la mort, chanté par Catalina Skinner et Pierre-Yves Binard, accompagné par l'Orchestre de Chambre de Toulouse. À nous maintenant, Corentin Appareilly. Alors, vous êtes à la fois un jeune musicien, un jeune compositeur, né et formé à Toulouse. Vous êtes ce qu'on appelle un enfant de la balle, puisque votre père, l'altiste Gilles Appareilly, est membre de longue date de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Votre mère elle-même était enseignante au Conservatoire de Toulouse.
Oui.
Alors j'en profite pour saluer au passage vos parents s'ils nous écoutent. Et puis vous avez été membre fondateur du Quatuor à Rhodes, dont vous avez fait partie pendant 5 ans en tant qu'altiste vous aussi. Maintenant vous vous consacrez essentiellement à la composition et vous êtes le compositeur en résidence à l'Orchestre de Chambre de Toulouse pour les 3 ans à venir. Qu'est-ce que ça implique pour vous? À quoi ça vous engage?
Alors, une résidence, en fait, ça s'invente un petit peu sur le moment, surtout que je suis le premier compositeur résident à l'Orchestre de Chambre, donc on est en train de construire des choses et d'essayer d'imaginer plein de pistes. Mais c'est au moins une pièce par an, du coup. Donc, imaginer un projet qui sera dans les concerts de la saison, au moins un par an. Et après, des projets annexes possibles, si jamais l'inspiration et les partenariats nous sourient.
Alors l'œuvre que vous avez composée, qui a été créée donc il y a une dizaine de jours lors des premiers concerts de l'orchestre de chambre de ce mois d'octobre, c'est une symphonie pour cordes inspirée par le portrait de Dorian Gray, donc d'Oscar Wilde, l'unique roman d'Oscar Wilde. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce roman pour composer une œuvre ?
Alors oui, le lien avec l'amour du coup est un peu moins évident que pour les autres pièces. C'est d'ailleurs
l'amour de soi peut-être.
La pièce tranche un petit peu d'ailleurs par rapport au reste du programme parce qu'elle est vraiment assez sombre par rapport aux airs, mais votre remarque m'a fait rire tout à l'heure sur l'amour en deux mots, parce qu'en art, vous savez très bien aussi l'amour et la mort sont souvent assez proches. Et du coup, c'est la lecture de ce roman qui m'a inspiré. En fait, je suis assez sensible à la littérature et même aux œuvres fantastiques en général. J'aime bien en fait quand les thèmes passent par des allégories ou du symbolisme, etc. Et c'est souvent le cas dans le fantastique. Et du coup, j'ai complètement adoré ce roman. Et je trouvais qu'il avait une tension très intéressante et très musicale, quelque chose de presque opératique, qui pourrait aussi d'ailleurs très bien fonctionner en ballet. Enfin, il y a quelque chose dans cette œuvre qui est pourtant très courte, qui peut se déployer comme ça sur beaucoup d'autres œuvres. Et donc, c'est ça qui m'a inspiré.
Une œuvre qui avait fait scandale à l'époque. Alors, je ne sais pas si c'est le côté scandaleux qui peut vous attirer aussi. Vous avez donné un titre à cette œuvre, Chiaroscuro, donc clair-obscur en italien.
Oui, en fait, je voulais un titre qui fasse à la fois le lien avec la peinture, parce que le clair-obscur, c'est on va dire un style de peinture avec des ombres comme ça très denses, des contrastes très marqués que je trouve très envoûtants. Et aussi justement la tension interne de ce mot entre clair et obscurité qui pouvait bien symboliser la dualité de Dorian Gray avec son tableau. Et donc c'était un petit peu ça la genèse de la pièce.
Bien que vous n'ayez pas encore 30 ans, vous avez déjà composé plusieurs œuvres. Quelles sont vos influences ou vos inspirations principales lorsque vous composez ?
Oh, ça peut être un peu de tout, surtout d'autres œuvres d'art. C'est vrai que j'aime bien quand je regarde des films ou là, par exemple, en lisant un roman, il y a souvent de la musique qui me vient en tête. Donc ça peut partir de là. Après, ça peut être aussi un paysage, une rencontre avec un musicien, par exemple, qui peut déclencher une envie de composition. Mais c'est vrai que, comme je vous disais, sur l'aspect un peu fantastique, l'utilisation de légendes ou de mythes, c'est souvent très inspirant pour des compositeurs. Et alors, plutôt que d'aller chercher justement des mythes comme Orphée ou des mythes de la mythologie grecque, etc., qui ont été beaucoup traités, je trouve ça intéressant d'aller s'inspirer de récits un peu plus contemporains, mais qui puissent dans les mêmes histoires, parce qu'en fait, chaque histoire est plus ou moins une variante d'un même mythe. Et donc voilà, c'est souvent des œuvres qui me donnent envie d'aller explorer des thèmes.
Alors ça, ce sont vos sources d'inspiration, mais vos influences, quels sont les compositeurs qui vous influencent ?
Pareil, en fait, je trouve ça très intéressant dans la musique contemporaine actuelle, où on a passé un petit peu la guerre de chapelle et qui s'affiliait à tel courant, etc. C'est vrai que je me suis jamais vraiment défini dans un courant particulier, parce que je trouve très intéressant justement d'aller piocher des inspirations, que ce soit dans la musique baroque, dans la musique classique, romantique, de pas se limiter en fait à certaines chapelles. C'est vrai que j'ai un faible quand même pour la musique romantique et je crois que ça s'entend, mais il peut y avoir des choses voilà, qui viennent de la musique même folklorique, musique traditionnelle, ça peut être un peu de tout. Après voilà, moi dans mes musiques, mes playlists de cœur, il y a du Mahler, il y a du Schubert, même du romantisme un petit peu plus tardif et du Ligeti par exemple, en particulier pour cette pièce qui a pu m'inspirer, mais voilà.
Alors aujourd'hui, donc à 29 ans, hein, vous aurez 30 ans en 2025. Quelles œuvres trouve-t-on au catalogue de Corentin à Paris ? Pour quelle formation avez-vous composé jusqu'alors ?
J'ai écrit beaucoup de musique de chambre, donc des trios, flûte alto et harpe, duo, violon, alto. J'ai écrit du coup un premier quatuor à cordes qui était une expérience particulièrement importante étant donné mon passé de quartettiste. Là, j'ai retrouvé un petit peu un cousinage en écrivant pour l'orchestre de chambre avec cette pièce parce qu'on retrouve les cordes, on retrouve l'écriture assez dense du quatuor et c'était assez inspirant pour moi. Et j'ai commencé aussi à écrire des pièces pour orchestre, notamment la sortie l'année prochaine d'un concerto pour Julien Martineau, qui est une fierté toulousaine, pour mandoline donc, et orchestre symphonique, qui sera un peu le premier gros concerto pour l'instrument parce qu'on a essayé de faire une orchestration vraiment fournie et inspirée des grands concertos romantiques.
Ça, c'est un CD à paraître début d'année 2025.
Oui, il n'y a pas encore de date officielle, mais ce sera...
C'est votre cadeau pour vos 30 ans.
Exactement.
Et avec quel orchestre ?
C'était l'orchestre Victor Hugo de Jean-François Verdier.
Oui, avec lequel Julien Martineau a déjà travaillé, je crois. Exact. Vous aviez déjà composé pour Julien. Il y avait eu un duo mandoline-piano avec Vanessa Benelli-Moselle,
oui,
la pianiste italienne.
Et en fait, c'était ma toute première commande de compositeur quand je suis parti du quatuor. Donc c'était, voilà, Julien est un petit peu mon parrain dans le métier. Donc je lui reste fidèle et j'espère qu'on fera beaucoup d'autres projets ensemble.
Bah, c'est un très bon musicien, c'est un garçon fidèle. Donc je ne doute pas que vous ferez sans doute d'autres choses avec lui. Alors, il y a une œuvre, apparemment vous aimez bien les titres un peu, comment dirais-je, bizarre, c'est peut-être pas le mot, mais qui sortent de l'ordinaire. Il y avait un quatuor à cordes dont le titre était Athanor, traité d'alchimie pour quatuor à cordes. Qu'est-ce que c'est que ça?
Oui, ben voilà, c'est le quatuor dont je parlais du coup. Pareil, c'était les récits d'alchimie me passionnaient parce qu'en fait, je m'intéresse autant un peu à ce que je peux en découvrir quand je m'y plonge que même le fantasme qu'on en a et puis la folie qui s'en dégage et la quête en fait de ces gens qui souvent essayaient du coup de transformer la matière pour essayer de créer une pierre philosophale qui pourrait soit transformer le plomb en or, soit déclencher une jeunesse éternelle. Enfin, il y a un peu beaucoup de variantes. Mais je trouve cette espèce de quête folle, inspirante, et je trouvais qu'il y avait un lien assez amusant avec le fait de créer ses propres œuvres quand on est artiste, où au final, pareillement, on essaye de transformer le son, la matière, pour accéder à une sorte d'immortalité, ou en tout cas, une perdurer un petit peu avec nos œuvres au-delà des années de notre vie.
Pour faire écouter votre musique à nos auditeurs à travers une de vos compositions précédentes, ben justement, j'ai choisi de diffuser un extrait d'Athanor, traité d'alchimie pour quatuor à cordes. C'est une version du quatuor Agathe. D'Athanor, traité d'alchimie pour quatuor à cordes, pièce de Corentin Paris, interprétée par le quatuor Agathe. Alors je suppose que vous êtes déjà en train de travailler à la composition d'une prochaine œuvre pour l'Orchestre de Chambre de Toulouse qui sera jouée la prochaine saison. Est-ce qu'on peut avoir quelques indiscrétions?
Oui, c'est alors encore à l'étape de projet. On aimerait bien inviter en tout cas un soliste ou une soliste pour cette prochaine pièce, parce que là, Chiaroscuro était essentiellement pour l'orchestre de chambre. Donc on réfléchit peut-être avec un violon solo, peut-être avec Manon Galli, peut-être...
Ah, oui.
On aime aussi beaucoup Mélanie Laurent, qui est harpiste toulousaine aussi. Donc voilà, on explore un peu des idées, mais en tout cas, on aimerait bien en profiter pour justement faire venir des solistes qu'on aime. Et
les jeunes talents toulousains, voilà. Qui déjà sont bien avancés dans la carrière, hein, les deux que vous avez cités en tout cas. Hein. Deux magnifiques musiciennes. On a de la chance à Toulouse quand même.
Ah,
et on a même un jeune compositeur, vous voyez.
Oui.
Merci beaucoup, Corentin Parier. Avant de conclure l'émission, il y a un autre événement important à vous annoncer et vous présenter. Il a lieu à l'Opéra National du Capitole du 24 au 30 octobre, lors de 6 représentations. Il s'agit d'un ballet, même de 2 ballets en fait, Sémiramis et Don Juan de Gluck. La musique va être jouée par le Concert des Nations, dirigé par son fondateur, Jordi Savall, Serge.
Ah oui, c'est... C'est vraiment un accompagnement de luxe, on peut dire, hein, pour ces pièces de Gluck qui ne sont pas si souvent jouées.
Hein. Non.
Chorégraphiées, c'est encore plus rare. Donc, c'est vraiment une chance hein, de pouvoir assister à l'un de ces concerts, puisqu'il est donné plusieurs fois.
Hein. Il y a 6 représentations,
représentations.
En 7 jours. Hein. Vous voyez, c'est presque tous les jours.
Vraiment, je crois que c'est un événement à ne pas manquer.
Mais ce qu'il y a d'important, je trouve, c'est que dans ce programme, en fait, pour la première fois, lorsque Gluck a écrit ses morceaux à l'intention d'un chorégraphe très très précis, pour la première fois ce chorégraphe et également Gluck avaient décidé de sortir le ballet de son rôle de ballet de cour qui n'avait rien à explorer, rien à dire, rien à montrer, si ce n'est un peu de virtuosité. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que justement, ce sont pour la première fois ce qu'on appelle les ballets d'action que nous allons voir. Et s'il n'y avait pas eu Gluck et puis cet immense chorégraphe de cette époque-là, eh bien, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu des petits pas, qu'il n'y aurait jamais eu des Béjart, enfin, moi, je ne sais pas trop
donc
quoi.
Donc, ils ont révolutionné, voilà. Si je comprends bien, le ballet à l'époque.
Mais complètement. Dans l'histoire du ballet, de la chorégraphie, c'est un événement capital. Et je trouve que le Capitole, en offrant ces deux créations, puisqu'en définitive, ces deux œuvres n'ont jamais été données dans cette chorégraphie, bien évidemment. Et en plus, comme disait Serge, l'orchestre du Concert des Nations et Jordi Savall, bon, c'est pas la première fois que Savall dirige les ballets, mais il adore ça en plus. Et là, je pense qu'on a vraiment six représentations qu'il faut à tout prix ne pas louper, parce que non seulement je pense que ça va être magnifique, mais en plus, c'est important dans l'histoire de voir un peu ce qu'est le ballet d'action.
Voici un extrait de Don Juan, le festin de Pierre, le ballet de Christopher Willibald Gluck, la Sinfonia, dans une version enregistrée il y a 2 ans par le Concert des Nations, sous la direction de Jordi Savall. Symphonia du ballet Don Juan, le festin de Pierre de Christopher Willibald Gluck, interprété par le Concert des Nations sous la direction de Jordi Savall. Vous allez donc retrouver les mêmes dans la fosse de l'Opéra National du Capitole pour la production Sémiramis Don Juan que donne le ballet du Capitole du 24 au 30 octobre. Il y a 6 représentations durant cette période, le seul jour de relâche étant le 28 octobre. Je vous invite à réserver et acheter vos places sur le site www.opera.toulouse.fr. D'autre part, je signale que le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole a lieu ce jeudi 24 octobre. À 20h à la Halle aux Grains, Jean-François Zigel y propose un programme qu'il a conçu et auquel il a donné le titre IA versus IA, c'est-à-dire intelligence artificielle contre imagination artistique. Je ne peux pas vous en dire plus si ce n'est que les réservations et l'achat des places sont à faire sur le site www.onct.toulouse.fr. Je rappelle que les chanteurs Pierre-Yves Binard et Catalina Skinner, accompagnés par l'Orchestre de Chambre de Toulouse, sont en concert les mercredis 30 et jeudi 31 octobre à 20h30 à l'Escale de Tournefeuille. Le programme a pour titre « Viva la mort » et vous pouvez y entendre des airs d'opéra, des mélodies et « Chiaroscuro », la pièce que Corentin Parilly a composée pour l'Orchestre de Chambre. La billetterie est en ligne à l'adresse www.orchestrechambredetoulouse.fr. Merci à Serge Chauzy et Robert Pénavert d'avoir co-animé cette émission à mes côtés. Tous mes remerciements également à notre invité d'honneur Corentin Parailly. Et merci aussi à Christophe Aubry qui a réalisé ce numéro. Le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Et merci enfin à nos auditeurs, toujours fidèles à l'écoute de Mélomanie. Très bonne semaine musicale à tous.